L'agité du local. Du lundi au vendredi
à 12h15. Sur le 100. Attends. Sur le.
Sur 107.9, 101.7.
Sur notre radio.
Bonjour et bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'Agité du local avec un nouveau jingle hein, qu'on apprécie. Merci, merci Joël et merci à nos stagiaires du lundi au mercredi, Chloé et Luna. Et Luna, c'est
Luna,
ça,
c'est ça.
Que je ne dise pas de bêtises quand même, que je n'écorche pas son nom. Et Luna d'avoir donc participé à ce jingle. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 octobre. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Et oui, super ce jingle. Et en plus, aujourd'hui, on est aussi entouré d'une autre stagiaire, Elina, et de notre deuxième service civique, Emma. C'est super.
Salut.
Il y a du monde aujourd'hui, ça fait plaisir.
Hop, bonjour les filles, si je mets vos micros, ce sera plus pratique. Allez-y.
Salut, salut.
Bonjour.
On va vous entendre, bien sûr, tout à l'heure, les filles. Mais on va juste d'abord faire un petit peu le sommaire de cette émission et parler du coup de frein à la vaccination au centre de Château-Gontier, faute de doses disponibles. On y aura aussi dans cette émission l'interview d'un jeune chanteur crânais qui monte, Timéo Beas, qui s'est fait connaître notamment par sa participation à The Voice Kids. Et puis, notre première chronique environnement proposée par Emma, qui nous dévoilera les vies multiples de nos cheveux.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. A changé, le locataire d'une maison tue son propriétaire.
Le drame a eu lieu mardi soir dans le quartier du Golfe à Changé. Le propriétaire d'un pavillon est venu réclamer au locataire des loyers impayés. Le ton monte rapidement, le locataire se saisit d'un couteau et porte plusieurs coups à son propriétaire. La victime est décédée sur place. L'auteur des faits serait toujours en garde à vue. L'enquête a été confiée au parquet du Mans.
Une surmortalité dans la région liée à la pandémie.
Plus 7% en 2020 dans les Pays de la Loire par rapport aux années entre 2015 et 2019 selon l'INSEE. Avec des inégalités entre départements, elle est particulièrement marquée en Mayenne, plus 9%, où la deuxième vague a fait plus de victimes par rapport à la mortalité habituelle. Profil le plus touché, les hommes de plus de 70 ans.
Très attendu par les étudiants, l'épicerie solidaire de Laval ouvre le 1er février.
Elle sera installée dans un local modulaire sur le parking de la résidence universitaire de Laval. L'épicerie solidaire va permettre aux étudiants de se fournir gratuitement ou à faible coût en denrées alimentaires et produits d'hygiène. Elle sera ouverte les mardis et jeudis après-midi avec la participation de la Croix-Rouge et de la Banque alimentaire. Pour y accéder, vous pouvez prendre contact avec les assistantes sociales du CROUS ou de l'Université du Mans.
Les agriculteurs contrôlent les prix des produits en supermarché.
À l'appel de la FDSEA, des agriculteurs mayennais sont allés hier après-midi dans un hypermarché de l'agglomération lavalloise à Carrefour-Grenoux. Objectif, contrôler les prix et origines de plusieurs produits. Ils ont trouvé des indications pour le moins assez floues, comme sous la bannière Viande de France, du jambon italien ou espagnol.
Et c'est le retour des ciné-débats confinés.
Proposé en ligne en partenariat avec le Palace de Château-Gontier, ce soir vous pourrez regarder Cas contraire à 20h sur la plateforme La 25e Heure. L'histoire, c'est celle d'Ulysse qui sort de prison et doit gérer sa réinsertion et la prise en charge de sa mère malade. Alors il faut gagner de l'argent et vite. La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice Sarah Marx et les deux acteurs révélation César 2021, Sander Funtek et Lorena Tellier. Inscription auparavant sur le site, tarif 5 euros.
La ville de Laval cherche toujours ses animateurs de maisons de quartier pour cet été.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez remplir le dossier de candidature disponible sur le site de la ville jusqu'au 31 janvier. Le profil, avoir au moins 21 ans, 3 ans de permis, de l'expérience en animation auprès d'adultes et de familles, et être disponible les soirs et week-ends. Des entretiens de sélection auront lieu les 13, 20 et 27 mars.
L'équidène de Laval est annulée.
L'épreuve de course à pied par équipe ne se tiendra pas le 21 mars à Laval comme prévu. Il n'y avait déjà pas eu d'édition en 2020, mais les organisateurs misent tout sur 2022 avec une date déjà prévue, le 27 mars. Le trail de la rue Creuse à Marigné prévu le 28 mars et un autre trail qui devait voir le jour le 25 avril dans les Avaloirs sont eux aussi annulés.
Une fin de course qui s'annonce serrée sur le Vendée Globe.
Les 7 premiers skippers sont à moins de 210 000 nautiques les uns des autres, emmenés toujours par Charlie Dalin, suivi par Boris Herman et Thomas Ruyant. Dans l'histoire du Vendée Globe, il n'y a jamais eu aussi peu d'écart à ce stade de la compétition. Maxime Sorel, lui, conforte sa 10e place.
Et Marie, à peine ouvert, est déjà saturée.
Le centre de vaccination de Château-Gontier s'est monté en 2 jours seulement à l'espace Saint-Fiacre. Depuis jeudi dernier, il accueille les personnes de plus de 75 ans venues se faire vacciner contre la Covid-19. Mais plus aucun créneau n'est disponible avant fin février, début mars. La faute à un nombre de doses insuffisant, malgré des livraisons 3 fois par jour. Pour les chanceux qui ont obtenu un rendez-vous, le docteur Marie-Christine Salvato, médecin généraliste coordinatrice du centre de vaccination, nous guide sur place.
Eh bien ici, vous avez les patients arrivent, se dirigent vers la secrétaire, qui va aller sur Amélie, qui va enregistrer les coordonnées du patient, le certificat médical. Ensuite, on remet au patient un certificat de vaccination signé par le médecin et contresigné par l'infirmière qui a vacciné. Donc là, du coup, on est sûr qu'ils sont vaccinés. Ils vont se reposer pendant 15 minutes dans la salle de repos, sous l'œil du médecin qui surveille qu'il ne se passe rien. Et ensuite, ils peuvent repartir. Normalement, on était dimensionné pour avoir 6 secrétaires, 6 infirmières, un médecin, voire doubler la capacité en cas de nécessité. Mais bon, on refera ça plus tard. Parce que pour l'instant, on a une seule infirmière. Un médecin toujours, puisque le médecin est obligé d'être présent. Ah ben, on est frustrés. Hein. Il y a une énorme mobilisation des gens, il y a une énorme mobilisation des infirmières. Le problème, c'est que comme on a été ouvert très tôt, les départements alentours sont venus chez nous. On a des gens du Mans qui demandent, des gens de la Flèche. On n'a pas de lisibilité en plus. On ne sait pas où on va, combien on va avoir de vaccins, comment est-ce qu'on va faire. On ne sait rien, si ce n'est qu'il faut qu'on arrête de faire des vaccins. Pour l'instant, on honore uniquement les rendez-vous qui ont été pris. Par contre, là, du coup, on va pouvoir les honorer et on pourra faire la deuxième injection. Ça, c'est possible.
La semaine dernière, 176 personnes ont été vaccinées et toute cette semaine, elles seront 643 à recevoir leur première dose. Parmi elles, Nicole Bordet, âgée de 82 ans, elle est venue de Villiers-Charlemagne avec son mari et a conscience de sa chance.
J'ai téléphoné du premier coup, il était 12h15 et tout de suite on m'a donné le rendez-vous. J'avais pas peur du tout, j'ai toujours été pour les vaccins, donc tout s'est bien passé, on a été très très bien accueillis, nous sommes contents, ça y est c'est fait. Et puis à la fin du mois de février, on reverra nos petits-enfants. Ah oui, parce que vraiment, on en a été privés à Noël, au premier de l'an, tout ça. Et là, c'est vraiment un énorme soulagement. Ça va changer la vie, hein, parce que vous savez, quand on arrive à nos âges, les années sont derrière nous. Combien d'années nous reste-t-il à vivre? Il faut qu'on les vive le mieux possible, avec le plus de plaisir avec nos familles. C'est ça qui compte pour nous. On ne sort plus beaucoup, tout ça, donc... notre plaisir, c'est d'être en famille, de revoir nos amis aussi. Donc, ouf!
Nicole reviendra d'ici 3 à 4 semaines en février pour recevoir la deuxième dose du vaccin. Pour le moment, ne tentez plus de prendre rendez-vous, ça ne sert à rien puisque tous les centres de vaccination sont pris jusqu'à fin février. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va jeter un petit coup d'œil sur le ciel grâce à notre nouvelle stagiaire Elina. Bonjour Elina, alors est-ce qu'il va faire beau cet après-midi et demain ?
Bonjour, oui, aujourd'hui le temps sera pluvieux. Cet après-midi, des averses orageuses accompagnées de vent seront à prévoir dans toute la Mayenne. Il fera entre 9 et 11 degrés en moyenne. À Goron et Loiron, il fera 9 degrés, 10 à Mélay-du-Maine et 11 degrés à Laval. Malgré tout, il y aura des éclaircies demain matin, mais les températures resteront fraîches autour de 4 degrés. Dans l'après-midi, de rares averses apparaîtront dans le département. Le soleil restera avec nous.
C'est super, merci beaucoup en tout cas Elina pour ce petit point sur la météo de cet après-midi et le ciel. Parce qu'on regarde là tout de suite maintenant, il fait pas super beau, mais au moins il y a un petit espoir pour demain. Merci beaucoup Elina. On revient d'ici quelques minutes, juste le temps d'écouter le groupe The Arcs avec leur morceau Velvet Ditch. sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local. Il s'est fait connaître grâce à l'émission de chant The Voice cet automne. À seulement 13 ans, Timéo Béas a déjà un beau parcours dans la chanson. On va l'écouter en direct de Cran. Enfin, pas en direct, puisque l'interview a été d'ailleurs enregistrée hier. Je suis aujourd'hui à Cran avec Timéo Béas. Vous l'avez certainement déjà vu et entendu. Il est allé jusqu'en demi-finale dans The Voice Kids cette année. C'était la 7e édition. Il est allé donc jusqu'aux émissions du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Bonjour Timéo.
Bonjour.
Alors donc là, on remonte un petit peu à octobre, mais cette passion pour la chanson, elle remonte à bien plus loin que ça. Tu as commencé à chanter, je crois, à partir de 8-9 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, à 8-9 ans, ma maman, elle m'a proposé de m'inscrire à une chorale dans ma ville, donc à Cran. Et moi, j'étais partant, donc j'ai dit ok, je me suis inscrite. J'ai adoré, j'ai fait mon tout premier concert en solo et donc j'étais vraiment super content.
Comment justement on en arrive à voilà, sur des scènes nationales et même arriver à The Voice Kids? Il y a eu plusieurs étapes, j'imagine.
Oui, il y a plusieurs étapes. Donc en fait, après, j'ai arrêté la chorale. Et j'ai décidé de faire ma toute première scène en solo, donc c'était à Saint-Quentin lors des variétés. Et donc là, c'était incroyable, j'ai reçu plein de compliments, donc je me suis dit « Ah ouais, donc c'est vraiment que je chante bien, quoi ». Et donc après, il y a une amie et ma maman d'enfance qui habite à Lyon, qu'elle n'a pas eu depuis longtemps. Son amie, du coup, m'a inscrit à un casting à Lyon, en secret, moi je ne savais même pas. Et donc mes parents ont envoyé une vidéo et puis après j'étais retenue, je suis montée à Lyon, j'ai passé le premier casting, j'ai été prise, j'ai dû remonter à Lyon pour refaire le dernier casting et la finale. Et donc là j'ai chanté et j'ai gagné ma place pour la première partie du concert des Kids United. Et donc là c'était une grande scène devant à peu près 5000 personnes et donc j'avais vraiment hâte, j'ai pu rencontrer les Kids United et c'était vraiment incroyable.
Là, j'imagine ça change d'un premier concert avec la chorale ici à chanter devant 5000 personnes. Comment est-ce qu'on gère ça aussi, peut-être le track tout simplement?
Oui, le track, bah, après ça dépend. Par exemple, pour la première partie du concert des Kids United, j'étais pas du tout stressée. Je pense parce que j'étais en groupe avec mes camarades, donc ça m'a quand même détendue. Et oui, par contre, il y a du track parfois, ça c'est normal en même temps, mais c'est du bon track.
Ça, c'était, j'ai envie de dire, qu'une étape, que la première étape, cette première partie, justement, du concert des Kids United. Ensuite, il y a eu une émission qui a été produite par Disney et diffusée lors de l'été 2019, que tu as gagnée. Mais alors, c'était voilà, une espèce de télé-réalité pendant laquelle on pouvait te suivre pendant 5 semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'était organisé?
Alors oui, donc j'ai passé des castings encore une fois et donc j'étais retenue. Et donc, je me suis retrouvée avec 6 camarades. Et donc, il y avait 3 garçons, 3 filles. Et donc, ils nous ont mis en binôme. Donc, moi, j'étais avec une fille. Et donc, pendant l'émission, on a reçu des guests chaque jour. Et donc, ils nous ont appris des techniques, etc., de chant, plein de choses. Et donc, après, ils nous ont préparé pour tourner un clip. Donc, dans le parc de Disney, on avait chacun 2 décors. Et donc, j'ai tourné le clip sur une chanson de Descendants 3. Donc, c'était pour ça, un peu My Descendante. Et donc voilà, et après les clips, le studio, tout avait été terminé, ça a été posté sur YouTube. Et donc les gens devaient choisir pour leur duo préféré. Et donc fallait mobiliser beaucoup de monde. Et donc avec surprise, j'ai gagné avec ma partenaire, donc c'était vraiment incroyable. Et donc suite à ça, j'ai pu chanter en avant-première au Trianon à Paris pour la première partie du film Descendants 3. Et j'ai pu faire aussi une parade à Disney, et donc ça c'était vraiment magique et incroyable.
C'est forcément un moment dont tu te souviendras aussi. C'est vrai que là aussi, tout est allé très vite. Et encore une fois, comment se sont enchaînées la suite? Comment est-ce que tu en es arrivée, encore une fois, à participer, en tout cas, au casting de The Voice Kids?
Entre-temps, j'ai fait pas mal de scènes. Puis après, j'ai rencontré mon coach, qui est maintenant aussi mon manager, François Tual, d'ailleurs, que je remercie. Et donc, il m'a inscrit aussi, je me suis inscrite à un concours, donc le tremplin des voix à Rennes. Et donc j'ai été élue coup de cœur du casting, du tremplin, donc j'étais en finale, j'ai pu chanter. Et par hasard, dans le public, dans le jury, il y avait Bruno Barberès, qui est le directeur de casting de The Voice Kids. Et donc à la fin de ma chanson, il m'a repéré, il m'a demandé de passer les castings, d'aller aux auditions à l'aveugle. Et donc moi j'ai accepté, et donc j'ai passé les castings, et je me suis retrouvée sur la scène des auditions à l'aveugle. Et là, c'est vraiment stressant de se retrouver ici, vu qu'on est devant 4 grandes stars de la télé, etc. Et avec un grand public, et de se dire qu'on est vu par des millions de personnes, c'est incroyable et très stressant. Et j'ai fait ma chanson. J'étais très, très stressée pour le coup, là. Et donc, je voyais Jennifer qui se retournait, Soprano, Patrick Fury, Kenji. Et là, c'était incroyable. Ils m'ont fait plein de beaux compliments.
Et bah, j'ai décidé d'aller avec soprano, voilà. Et après, bah, tout s'est enchaîné, pareil, les battles. J'ai gagné les battles et la demi-finale. Et je me suis arrêtée en demi-finale, mais je ne regrette pas du tout. Parce que déjà, pour moi, je me suis dit aux auditions à l'aveugle, d'arriver là, c'est énorme. Et d'avoir un siège au moins, c'est énorme. Et demi-finale, bah, c'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment un rêve éveillé, donc voilà.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, avec un petit peu de recul, hein, pas beaucoup, mais quelques mois de recul, cette expérience?
Bah, ça m'a apporté plein de belles rencontres artistiques. Ça m'a aussi fait grandir musicalement. Et donc, j'ai appris plein de nouvelles techniques, etc. J'ai rencontré plein de belles personnes. Et donc, c'est vraiment une chose que je voulais faire depuis tout petit. Et donc, c'était un rêve. Et c'est une chose que j'ai réussi. Voilà.
J'imagine en termes de visibilité, même par rapport à tes autres projets, puisqu'on va en parler justement. Là, c'est une très belle vitrine, on va dire, The Voice Kids.
Ah oui, c'est une très belle vitrine parce que on est vu par des millions de personnes et c'est très connu cette émission, donc voilà. Et donc j'ai pu forcément gagner de l'audience, etc. Donc d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai atteint les 20 000 abonnés sur Instagram, ce qui est énorme. Et donc c'est vraiment incroyable.
On a pu te voir en tout cas à cette occasion au mois d'octobre, mais même si on ne te voit pas à l'écran, c'est pas pour ça que les projets s'arrêtent, bien au contraire, puisqu'en même temps d'ailleurs, il y avait toujours sur TF1, peut-être que vous l'avez vu, ce téléfilm donc, sur la vie de Grégory Lemarchal, et là aussi tu as fait une apparition, de quelle manière ?
En chantant, donc en doublant une scène de Grégory Lemarchal étant petit qui chantait. Et donc voilà, c'était aussi incroyable. Donc c'est d'ailleurs le directeur de casting, Benoît Barberès, qui m'a demandé de faire ça. Donc moi, j'ai accepté, j'ai doublé, je suis montée à Paris. Puis là, c'était un grand moment, pareil que The Voice Kids. Et donc d'entendre ma voix à la télé sur ce film en plus, parce que c'était un honneur pour moi de doubler Grégory Lemarchal quand même. Bah, c'était extraordinaire.
Le doublage, finalement, ça t'a plu? Tu continues l'aventure, mais là sur une... tout autre chose, puisque c'est sur un dessin animé qui sera prochainement diffusé sur France Télévisions. Donc tu te lances dans cette aventure du doublage?
Alors oui, je me lance là-dedans. Donc au début, j'étais quand même... j'étais perplexe, je me disais, oh, d'accord, je vais quand même essayer. Mais je me disais, j'ai jamais fait ça, donc j'étais stressée aussi. Et donc j'ai essayé, puis en fait, c'est passé tellement bien. C'était vraiment extraordinaire, c'est très amusant. Mais c'est aussi quand même difficile, vu qu'il faut avoir aussi des talents d'acteur et il faut réussir à placer la voix avec l'image. Donc c'est très dur aussi, mais j'adore. Et donc je continue sur cette voie également.
D'accord. Et ça, du coup, on pourra les retrouver, ces épisodes, à partir de quand? Est-ce que tu as une idée?
Normalement, c'est pour 2021, à la rentrée, il me semble. Et donc voilà, avec plusieurs épisodes. Je ne peux pas encore dire qui je fais comme personnage, mais le dessin animé, donc, c'est sur France Télévisions et il s'appelle Disco Dragon. Voilà.
Donc là, c'est vrai qu'on sort un petit peu du chant en tant que tel, mais ça te plaît aussi? C'est une autre branche qui te plaît aussi?
Ah oui, j'ai découvert ça et franchement, ça me plaît vraiment. En fait, j'adore, je m'amuse en faisant ça et donc c'est vraiment trop bien.
À découvrir en tout cas à la rentrée si tout va bien. Mais en attendant, je disais que tu avais découvert cette autre branche plutôt comédie, d'acteur, de jeu d'acteur. Mais c'est pas pour ça que le côté chanson s'arrête, puisque il y a déjà un EP, un mini-album qui est en prévision avec l'une de tes collègues de The Voice, je crois.
Oui, donc c'est avec Zoé de The Voice Kids 7, donc demi-finaliste aussi. Il y a un auteur-compositeur qui nous a repérés, donc... Il nous a demandé d'enregistrer un titre, donc on l'a enregistré. Puis après, on a signé dans un label. Et donc là, on a un album en préparation. Donc voilà.
Justement, d'avoir un premier album à 13 ans, c'est ça? Qu'est-ce que ça fait?
C'est incroyable parce que depuis tout petit, pareil, je me disais, je veux 3 albums. Et donc, de voir encore ça que j'ai réussi, un autre rêve, je me dis, c'est incroyable, c'est vraiment de la chance.
Et pas que, je pense quand même.
Mais... oui, voilà, c'est vraiment incroyable.
Parce que justement, quand je disais « et pas que », parce qu'il y a aussi des entraînements, là on parle forcément que des projets de l'aboutissement peut-être, mais il y a aussi ce travail du chant au quotidien, tu es accompagnée par ton coach vocal, comment ça se concrétise vraiment au quotidien, c'est-à-dire que tu t'entraînes à quelle fréquence, comment ça fonctionne?
Alors en fait, souvent je le vois une ou deux fois par mois pour faire un coaching, et donc ça dure une heure et demie à peu près. Et donc, il m'apprend plein de choses, donc des techniques de chant, aussi scéniques, et on apprend de nouvelles chansons, enfin, tout ça, quoi, voilà.
J'imagine qu'au quotidien, le chant a aussi une part importante dans ta vie. Tu dois faire partie des gens qui chantent tout le temps.
Oui, c'est pas parce que... Voilà, mais je chante aussi tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas un instant que je ne peux pas chanter. Même des fois, je chante sans m'en rendre compte. Et donc, voilà.
Ma prochaine question, c'était plutôt par rapport à ton rythme. Parce qu'on a l'impression que tu ne t'arrêtes jamais. Mais sauf que tu as 13 ans, tu es encore un collégien. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça?
Pour l'instant, ça va. J'arrive à concilier les deux, le travail et le chant. Donc pour l'instant, ça va. J'espère que je continuerai ainsi à pouvoir accorder les deux. Mais pour l'instant, c'est bien.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cette année 2021 ?
J'espère continuer dans cette lancée et d'avoir plein de nouveaux projets également. En tout cas, je vis déjà un rêve éveillé, donc c'est vraiment magique.
Et des dates de concert, a ajouté sa maman Muriel, qui, à l'image de toute sa famille, l'a toujours encouragée et épaulée. Comment est-ce que vous le soutenez dans tous ces différents projets ?
Du mieux qu'on peut. En fait, on essaye d'allier notre vie professionnelle, sa vie scolaire, et puis nos deux autres filles aussi, parce qu'il n'est pas tout seul. On a aussi, même si elles sont grandes, deux grandes filles, mais elles sont là, elles existent, donc on essaye de tout allier. Donc c'est pas toujours simple, mais on y arrive, voilà. Et on est aussi aidé par François, donc son coach et son manager, donc ça nous soulage quand même beaucoup.
J'imagine que c'est un peu quand même une surprise si on vous avait dit il y a 2-3 ans que ça allait se passer comme ça.
Ah oui, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, Timéo, c'est un petit garçon qui est surprenant, incroyable. Il nous fait vivre des choses, surprenantes. On n'aurait pas du tout pensé. Moi, je ne pensais pas en l'amenant, en le déposant le mercredi à la chorale, qu'il se retrouverait sur TF1. Non, pas du tout. Tout nous touche, en fait. Parce que c'est un petit garçon qui est... Enfin, on est une famille simple. C'est un petit garçon simple. Et donc, tout nous touche. Parce que quand on est parent, voir son enfant évoluer comme ça, c'est touchant, quoi. Et puis, quand il chante, il nous... Ça nous fait des choses... On ressent de l'émotion. C'est incroyable, quoi. Donc, tout son parcours nous touche, en fait. Voilà.
J'imagine forcément recevoir aussi pas mal de messages, d'appels, alors que ce soit de la famille ou même des gens que vous connaissez pas, des Mayennais aussi, qui vous disent « Waouh, incroyable, Timo, on vient de le voir, de l'entendre, qu'est-ce que ça fait ça ?»
Ça fait chaud au cœur, parce que on a reçu énormément de messages d'amour, parce que c'est des messages d'amour, quoi. C'est beau, en fait, ce que les gens disent à Timéo, ou ce que même les gens nous disent à nous, mais particulièrement à Timéo, c'est extraordinaire, quoi. Donc, ça fait chaud au cœur, et puis on les remercie, et puis on les remerciera jamais assez, parce que c'est aussi grâce à eux, en fait. Ça, il faut pas oublier, que tout artiste, si le public n'est pas au rendez-vous... Voilà, c'est le public hein, qui choisit, en fait. Donc, on est super heureux.
Là, c'est pareil, on l'a dit, Timéo a 13 ans. Donc, il y aura peut-être encore d'autres projets. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, ça fasse beaucoup pour une seule personne ?
Oui. Alors, parfois, je ne vais pas vous mentir. Là, on a eu, hélas, la période, les conditions sanitaires actuelles. Qui font que, évidemment, c'est un petit peu plus au ralenti. Mais même au ralenti, Timéo travaille toujours et on est toujours bien occupé, puisqu'en fait, il ne s'arrête jamais. Mais, effectivement, on s'est questionné là-dessus. Donc, pour l'instant, ça reste gérable. Hélas, parce que la période fait que tout est un petit peu... au ralenti, donc on arrive encore à le gérer, mais effectivement, on se questionne pour l'avenir. S'il continue dans cette voie, forcément qu'il y aura peut-être à un moment donné des décisions à prendre. Mais on est épaulé par des professionnels, et puis on verra, voilà.
Vous voyez qu'il est épanoui, donc je pense que ça aussi, pour des parents, c'est presque le plus important.
Oui, son épanouissement, voilà. Après, nous, on le suivra toujours dans tout ce qu'il fera. Si un jour il veut arrêter, il arrêtera. voilà, ça reste notre enfant, en fait. Hein. Peu importe ce que font nos enfants, on est toujours fiers d'eux, de toute façon, quoi qu'ils fassent. Hein. Donc, on le suit. On l'épaule, on l'emmène. Alors oui, c'est vrai, il faut faire parfois beaucoup d'allers-retours, c'est sûr. Mais c'est pour des belles choses, c'est des choses positives, c'est des ondes positives. Et honnêtement, ça fait du bien. On en a besoin, encore plus en ce moment. Donc on peut pas se plaindre. En fait, on n'a pas le droit de se plaindre de belles choses comme ça.
Et si la situation sanitaire le permet, Timéo donnera un concert au mois d'avril à la salle des Mûriers de Cran. Il devrait sortir son EP d'ici quelques mois. On va justement écouter Timéo qui interprète Never Enough, la chanson des auditions à l'aveugle de The Voice. Je vous laisse l'écouter. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting loud enough. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stories we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Doubt, of course, are still too little. These ends could all the world, but it'll never. C'était Timéo. Oh, pardon.
Merci beaucoup.
Cette fois-ci, c'est bon que je ne coupe pas quand même la musique jusqu'au bout. En tout cas, vous l'avez entendu, c'était donc Timéo Beas que nous avions en interview juste avant, lors d'une de ses prestations avec la chanson « Never Enough ». Aujourd'hui, on va parler environnement. Pour la première fois, l'une de nos chroniques est dédiée donc à ce sujet. Avec toi, Emma, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Alors pour ce premier sujet, on va parler protection environnementale et plus précisément la protection des océans grâce à nos cheveux. Et oui, les cheveux peuvent permettre de préserver les océans de la pollution et c'est notamment grâce à leur pouvoir d'absorption. Les cheveux sont très absorbants et on peut s'en rendre compte nous-mêmes lors de nos shampoings. Eh bien, c'est grâce à leur porosité. Le cheveu est constitué d'écailles qui sont légèrement ouvertes, permettant alors au fluide de pénétrer et de les retenir. Un cheveu en bon état peut absorber jusqu'à 30% de son poids. C'est en partie grâce à Phil McCrory, un coiffeur d'Alabama, qui a découvert ce phénomène en 1989 lorsqu'il tombe sur, malheureusement, un animal mort dont la fourrure avait absorbé le pétrole accumulé autour de lui. Grâce à ça, il décide de faire plusieurs expériences en récupérant les cheveux qui, une fois coupés, étaient tombés sur le sol de son salon. Sa découverte a permis de faire progresser les systèmes de préservation des océans. En effet, les cheveux sont bien plus éco-responsables que les dispersants chimiques utilisés encore aujourd'hui, qui sont dangereux pour les nappes phréatiques et par conséquent pour les océans. Cette technique a d'ailleurs permis de filtrer plusieurs marées noires à travers le globe. L'année dernière, par exemple, lorsqu'un bateau japonais s'est échoué près de l'île Maurice en déversant du pétrole. Les cheveux récoltés ont permis de filtrer l'eau, placée dans des sacs en tissu qui étaient attachés les uns aux autres en formant une barrière. Et en France, c'est Thierry Gras, président et fondateur de l'association Coiffeurs Justes créée en 2015, qui se mobilise pour recycler toutes ces mèches qui, une fois coupées, n'étaient pas utilisées. La quantité de cheveux jetés par un salon est énorme et au lieu de n'en faire rien, pourquoi pas essayer de trouver un moyen responsable qui profiterait à tous. Il met donc en place des sacs qui peuvent contenir jusqu'à environ 2 kg de cheveux. Il invite les salons de toute la France à le rejoindre afin d'agir ensemble. Mais saviez-vous que la protection des océans n'est pas la seule possibilité pour le recyclage de nos cheveux? En effet, leurs multiples propriétés peuvent être utiles dans l'isolation ou encore dans l'agriculture, étant des fertilisants naturels et très efficaces. Mais alors, comment ça marche? Eh bien, les cheveux, une fois coupés, au lieu d'être jetés comme ils le sont depuis toujours, sont récupérés dans des sacs en papier biosourcé, fabriqués avec de l'encre alimentaire et de la colle de maïs, pouvant contenir jusqu'à 2 kg. Ils sont ensuite envoyés dans le hangar de Coiffeurs Justes, et un sac se remplit grâce à environ 220 coupes de cheveux, ce qui correspond à ce que coupe en moyenne un salon par mois. Les cheveux sont ensuite placés dans des sortes de bananes confectionnées à partir de collants recyclés. Ils peuvent être utilisés jusqu'à 10 fois et une fois leurs limites atteintes, ils servent d'isolant pour le bâtiment et ne sont donc jamais jetés. Et si vous vous demandiez, tous les cheveux peuvent être récupérés. Il n'y a pas de longueur minimale, pas de qualité précise recommandée et vous pouvez donc tous et toutes donner vos cheveux. Et pour les donner, il suffit de vous rendre dans un salon partenaire et on en trouve même ici en Mayenne. La liste est disponible sur le site de Coiffeurs Justes. Peut-être que vous en avez un près de chez vous, alors si vous devez vous faire couper les cheveux, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des salons de coiffure partenaires et ainsi participer à la protection des océans.
Merci beaucoup Emma pour cette chronique fort instructive, en tout cas moi j'ai appris plein de choses et donc on l'a bien retenu, donc c'est sur Coiffeurs Justes, c'est ça le site pour retrouver tous les salons de coiffure partenaires pour que vos cheveux ne partent pas directement à la poubelle, ce serait si bête quand on voit tout ce à quoi ils peuvent servir. Merci beaucoup Emma et on te retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Exactement.
Très bien, évidemment, à la semaine prochaine. Et une nouvelle chronique encore aujourd'hui, dis donc que je suis gâtée avec plein de contributions. C'est celle de Swazik, comme tous les jours, qui nous promet l'histoire, va nous raconter l'histoire d'un objet qu'on avait presque oublié, le bidet. Bonjour Swazik, on fait un nouveau tour dans ce magasin du monde et on s'attarde sur un objet bien particulier aujourd'hui, le bidet.
Eh oui, bonjour Marie. Ah dada sur mon bidet, quand il trotte, il fait des pets. On connaît tous cette comptine qui a fait sauter les enfants sur nos genoux. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du bidet en tant qu'âne, mais en tant qu'objet de salle de bain, à qui d'ailleurs le bidet âne a donné son nom à cause de sa forme trapue. On ne se serait pas attendu à ce que le bidet fasse partie de notre grand magasin du monde. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a toute sa place. Alors l'histoire commence en France à la fin du XVIe siècle, quand on se met à penser que l'eau altère les fonctions de l'organisme et que le puritanisme ambiant crée la hantise de la vision des organes sexuels. Comme souvent, les nouveautés, il devient le signe distinctif des classes aisées. D'ailleurs, le marquis d'Argenson, futur ministre de Louis XV, raconte notamment son entrevue avec la marquise de Prie, restée pendant tout le temps assis sur son bidet. Napoléon en est également un fervent adepte. Alors, durant les Lumières, au XVIIIe siècle, le bidet continue son extension, surtout en Italie, mais d'une drôle de façon, puisqu'à ses débuts, il est confondu avec un plat de cuisine dans lequel on dit que la princesse Giuliana de Santa Croce fait servir un souper de Noël. Puis il continue son périple dans les pays du sud de l'Europe et d'Amérique latine. En revanche, le bidet a bien du mal à percer le monde anglo-saxon. Il est souvent connoté aux mœurs légères, voire à la prostitution. On le trouve donc très rarement en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. Autant vous dire que lorsqu'en 1997, quand la princesse Diana emménage dans la Trump Tower à New York et que les détails des salles de bain montrent des bidets dans chacune d'entre elles, le public américain est piqué de curiosité devant ces objets sanitaires qu'il trouve si bizarres. Et l'histoire du bidet continue encore aujourd'hui. Le Japon notamment s'est spécialisé dans la fabrication de toilettes intégrant les usages du bidet pour plus d'hygiène et de confort. La tablette y est chauffante, une douchette nettoie les parties intimes et un courant d'air chaud se libère pour sécher les parties nettoyées. Tout un programme. Encore plus récemment, notamment depuis le début de la crise du coronavirus, les Australiens et les Américains ont redécouvert l'usage du bidet suite à la pénurie de papier hygiénique. Vous voyez bien que le bidet que l'on croyait désuet n'a donc en fait pas terminé son voyage international. Et Marie, vous pourrez l'acquérir sans problème dans le grand magasin du monde.
Eh bien pourquoi pas, c'est vrai que je pensais à redécorer chez moi un bidet, pourquoi pas, on ne sait jamais. Merci en tout cas Swazik pour cette nouvelle chronique des objets pour un monde. On vous retrouve demain pour un nouvel objet bien sûr. Et ça y est, c'est déjà la fin de l'émission qui approche. C'est l'heure donc de notre rubrique initiative présentée par Claire avec une spéciale culture aujourd'hui. Vous avez rendez-vous avec la lecture pour cette fin de semaine.
Et oui, c'est aujourd'hui le lancement national des Nuits de la Lecture qui se dérouleront jusqu'à ce dimanche avec un temps fort samedi. Un événement autour de la littérature, vous l'avez compris, mais aussi de l'imaginaire. Au programme dès demain, vendredi 22 janvier, on retrouve toute la journée de 9h à 18h dans les trois maisons de quartier de la ville de Laval, donc celles des Grenoux, des Fourches et d'Hilard. Des coups de cœur et des lectures pour petits et grands à travers des carnets de découvertes. Il y aura aussi des jeux à réaliser en famille. Pour le programme de samedi, je vous dévoile tout ça demain.
Ah oui, alors maintenant on fait dans le teasing. Et merci Claire, en tout cas on a hâte de découvrir ce programme. Et toujours dans le thème de la culture, mais cette fois-ci c'est une exposition.
Et oui, vous le savez, les musées et les lieux d'exposition sont fermés jusqu'à nouvel ordre, mais ça n'a pas arrêté la galerie d'art La Maison Bleue à Cran. Elle propose une exposition visible depuis la rue en exposant dans ses vitrines les œuvres d'artistes de tout horizon, locaux ou non, professionnels ou amateurs, mais aussi des œuvres de l'artiste Willy Homme, dont l'exposition était prévue au mois de janvier, mais donc a été annulée. N'hésitez pas donc à vous promener devant la Maison Bleue, 38 rue des Halles, à Cran.
Merci beaucoup Claire pour ces nouveaux conseils culture, on va dire, au sens large, en tout cas pour ce week-end et pour le mois de janvier. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, bien sûr, nom du compte, tout simplement L'Autre Radio. Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce jeudi 21 janvier. Merci beaucoup, les filles. Là, je peux le dire, puisque vous êtes toutes les trois devant moi. Merci.
Merci à toi.
Merci Marie. Merci tout le monde.
Merci. Et puis, on se retrouve donc très très vite pour Claire sur, en tout cas, demain. Et puis, peut-être aussi pour Elina. On verra si la météo, ça vous a plu. On fera quelque chose de bien plus conséquent demain. Merci beaucoup, en tout cas. Sur l'antenne, évidemment, ça se poursuit. À suivre à 19h, il y a la grande séduction. Et à 21h, All Blues, qui commence avec Benoît Blueboy et les Tortilleurs. Et nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
L'agité du local.